NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2010 et c'est l'épisode numéro 46. Bonjour à tous et bienvenue sur le 46e épisode du Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de la technologie, d'internet et des gadgets, le podcast qui met tout ça à la portée de votre grand-mère. Je suis Patrick et je suis accompagné de Yann seulement aujourd'hui. Comment vas-tu, Yann ?
Eh ben écoute, ça va très bien. Il commence à faire un petit peu meilleur au Canada en ce moment, donc je suis content puisque on était passé pratiquement sous la barre des 0 degrés. Donc là, le soleil aujourd'hui, il doit faire dans les 20 degrés presque, donc je suis super content.
20 degrés ?
Eh non, oui. Mais
je crois que on t'a menti sur la marchandise. Là, le Canada, normalement, c'est la neige, les rennes, tout ça, quoi.
Ben ouais, c'est ce que beaucoup pensent, mais en fait, il fait souvent très beau ici, et même quand on a l'impression que voilà, quoi, c'est parti pour le grand froid, ben finalement en fait, non.
Voilà. D'accord. Bon, pour ceux qui suivent leur calendrier avec minutie, vous vous rendez compte que cet épisode est un petit peu en retard, et vous allez vous rendre compte avec l'épisode en lui-même, que c'est un mini-épisode, puisqu'en fait, on a eu tous des semaines très agitées, et vous vous rendez compte aussi que Jeff, malheureusement, n'est pas avec nous. J'ai eu quelques personnes sur Twitter qui m'ont dit « Mais que se passe-t-il ? Le rendez-vous tech n'est pas là à l'heure. » C'est vrai que quand on a fait... ça fait quoi ? 2 ans maintenant qu'on fait le rendez-vous tech ? Presque. Avec tous les épisodes à l'heure quand il fallait, avec peut-être un jour de décalage au pire. Là, on enregistre le mercredi au lieu du lundi. Les gens paniquent un peu et je vous remercie de votre assiduité tous.
Je vous remercie de paniquer.
En fait, moi, j'étais en déplacement en Californie et puis on n'a pas pu se débrouiller pour enregistrer quand il fallait. En fait, on était tous plus proches qu'on ne l'a jamais été et on réussi à enregistrer. C'est quand même ironique, il a fallu que je revienne en France pour qu'on puisse se caler un truc. Ah ouais. C'est dingue.
Quelle idée de se retrouver physiquement pour discuter, c'est complètement has-been ce concept.
Ah non, mais ça c'est hyper 90s quoi, je trouve ça très limite. En plus, il n'y a pas énormément de choses hyper importantes, donc ça tombe pas plus mal. On va se faire un petit mini épisode. Alors je dis mini maintenant, on va se retrouver à 1h30, mais non, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses. On va faire un épisode un petit peu plus rapide que d'habitude, en vous parlant un petit peu de ce qui s'est passé comme toujours ces deux dernières semaines dans l'actualité technologique, et vous verrez que il n'y a pas eu une immense chose qui a dominé l'actualité, et que même l'event Apple qui a eu lieu donc mercredi dernier n'a pas, mercredi ou jeudi, je ne sais plus, n'a pas amené d'annonce totalement fracassante qui a modifié la face de l'informatique. Et on n'a presque plus l'habitude d'un event normal sans annonce cataclysmique de la part d'Apple.
Ouais. Enfin, on voit que Jeff n'est pas là, hein, parce que là il aurait rétorqué tout de suite, mais quoi, qu'est-ce que tu racontes, c'était génial et tout, c'est le meilleur event en bon Apple fan qu'il est, quoi. Mais effectivement.
C'est bien possible, ouais. Alors, donc on va vous parler un petit peu d'Apple, on va vous parler de Barnes & Noble, de Microsoft, de Google, enfin des trucs habituels. Vous allez voir, il y a quand même quelques petites choses qui ont piqué notre intérêt. Et on va commencer par Apple, puisque c'était quand même si c'était pas totalement invraisemblable ce qu'ils ont dit, il y avait quelques annonces intéressantes. Ah, et j'en profite juste avant de commencer pour dire que mon micro est différent depuis peut-être un ou deux épisodes, et vous avez été nombreux à me signaler que quand je fais ceci, c'est insupportable, et je m'en rends compte. Et donc, je vais faire de mon mieux pour ne pas faire autre chose, en fait, et cliquer sur ma souris pendant que les gens discutent. Donc, je vais être obligé d'être concentré pendant l'épisode, ça va être terrible. Voilà, donc oui, je suis désolé, je m'en rends compte, et je vais faire de mon mieux pour ne pas cliquer sur la souris à aucun moment ou presque pendant l'épisode. Désolé pour ces désagréments qui, c'est vrai, sont assez irritants, je m'en rends compte quand je réécoute certains épisodes. Bref, donc Apple, Steve Jobs est monté sur scène pour parler pendant une heure du nouvel iLife, ce qui a eu un effet assez soporifique sur l'audience.
Ah, c'est
sur
de le dire. Hein.
Ouais, t'as souffert. Tu as regardé la keynote ?
Ouais, j'ai regardé discrètement sur mon iPhone pendant que j'étais au boulot, parce que voilà quoi, ils ont retransmis ça, donc je faisais genre je bossais alors que je regardais la conférence. Et quand je me dis que j'ai failli me faire virer pour une conférence comme ça, ça valait vraiment pas le coup. Et effectivement, ils ont passé pratiquement une bonne heure en fait, avec une introduction sur le nouvel iLife qui est maintenant disponible, ouais, tout à fait. Alors effectivement, il y a des trucs sympas qui sont annoncés, iMovie, on va pouvoir faire plus de trucs, mieux contrôler le son, faire des trailers de qualité professionnelle. C'est sympa pour un montage des vidéos de vacances. Ils ont passé un peu de temps aussi sur GarageBand, avec notamment un mode un peu Guitar Hero, puisque c'est dans l'air du temps. Donc vous branchez votre piano, et puis GarageBand va vous dire si vous suivez bien la partition ou pas, avec un score à la fin. Un peu d'iPhoto aussi, avec des nouveaux diaporamas comme Apple sait si bien les faire, avec des trucs bien tape à l'œil qui sont sympas quand vous avez un petit dîner et que vous faites tourner iPhoto sur votre écran plasma en fond. Donc c'était assez sympa, mais trois quarts d'heure là-dessus, c'est assez lourd. Donc le plus intéressant, enfin les sujets les plus croustillants sont arrivés un petit peu plus tard, notamment avec le MacBook Air, donc le nouveau, le remplaçant du MacBook Air qui était déjà en vente avant, mais qui était particulièrement lent,
sous-performant, on va dire.
Ouais, voilà, sous-performant, exactement. Et donc ils sont arrivés avec deux versions bien plus véloces, une version 11 pouces et une version 13 pouces. Qui respectivement ont 5 heures et 7 heures d'autonomie. Ce qui est le plus marquant finalement avec ces MacBook Air, c'est qu'ils se sont largement inspirés de leur expérience qu'ils ont eue avec l'iPhone et l'iPad pour se servir de cette expérience et revenir finalement sur les Macs, d'où le nom de la conférence Back to the Mac, et donc utiliser donc tout ce savoir-faire qu'ils ont accumulé pour améliorer finalement le MacBook Air. Donc du coup
Je t'interromps une seconde parce que en fait il y a deux choses. Il y a d'une part le MacBook Air qui a effectivement été annoncé, enfin les nouvelles versions, mais les modifications ou les améliorations qu'ils font sur le macOS seront présentes dans macOS 10.6, je crois.
Ouais, Lion.
Lion, qui sera disponible sur tous les Mac, pas uniquement sur le MacBook Air.
Oui, tout à fait. Mais là en fait je faisais plutôt allusion aux modifications hardware, fait qu'ils aient dégagé par exemple, enfin je sais pas si ça existait déjà dans la version précédente, mais le lecteur optique, donc il y en a pas, ou il y en a toujours pas, ou il y en a plus, et puis on a tout est en flash, mettons le disque dur est flash, est en flash, enfin utilise la technologie flash qui permet d'avoir ce qu'ils appellent le réveil instantané. Donc vous éteignez votre MacBook Air et quand vous le rallumez, il se rallume aussi rapidement que l'iPad. Quand vous le rallumez, vous retrouvez tous vos documents, vous n'avez pas de phase de rechargement, de démarrage. Donc c'est assez sympa. Hein.
En fait, l'ancien MacBook Air n'avait déjà plus de lecteur optique. C'était d'ailleurs de là que venait son nom de Air, puisque tout se passait par le réseau Wi-Fi, notamment. Mais par contre, effectivement, il avait un disque dur en option et une version disque dur SSD. Enfin, disque SSD, même pas disque SSD, SSD tout court, puisque c'est Solid State Drive, qui veut dire disque. Donc si vous dites SSD Drive, c'est redondant. mais là, effectivement, tout est complètement axé sur le SSD. Et donc, c'est beaucoup plus rapide. Et ils ont une chose intéressante, c'est qu'ils ne se servent pas de la boîte d'un SSD qui serait dans une boîte de disque dur et connecté comme un disque dur normal. Les modules de mémoire du SSD sont directement soudés sur la carte mère, donc ça leur permet de gagner beaucoup de place, ce qui leur permet de laisser plus de place à la Non, pas la carte graphique, à la batterie. La batterie prend les trois quarts de la machine. Et bon, en fait, ce que c'est au final ce produit, pour résumer un petit peu les choses, c'est une sorte de netbook survitaminé, donc qui est assez puissant, qui est même très raisonnablement puissant, qui est pas, peut-être pas aussi puissant qu'un MacBook Pro, et encore, parce que sur les modèles les plus chers, ça, c'est l'équivalent d'un MacBook Pro d'entrée de gamme, hein, je dis bien. Mais c'est une machine complètement potable, elle est très légère, extra fine, et elle a une petite carte graphique intégrée à Nvidia qui est pas dégueulasse, qui tourne correctement. Elle a un processeur relativement correct. Et surtout, bon, la toute première configuration est à 999 $, j'imagine que c'est 999 €, pour cette entrée de gamme. Et c'est le petit 11 pouces qui est, donc, comme on le disait, super léger, super plat, super rapide pour ce que c'est. C'est une bonne petite machine. Il ne faut pas s'attendre à des performances hallucinantes, mais c'est un bon petit produit. Pour moi, bon, ça passe.
Le truc, moi, qui me séduit le plus, finalement, avec ce MacBook Air, c'est son autonomie en temps de veille, quand vous le mettez en veille, c'est qu'il a 30 jours d'autonomie. Tous ceux qui ont un ordinateur portable savent très bien que même quand vous rabattez l'écran et qu'il rentre donc en mode veille prolongée, enfin en mode veille plutôt, ça dure pas 2 jours, quoi. Donc avec un mode veille de 30 jours, ben voilà, c'est assez sympa de pouvoir se dire qu'on va pouvoir l'utiliser, laisser traîner avant de devoir le raccorder, quoi. Donc ça a été...
Petite précision pour ceux qui sont fans de détails et peut-être anti-Apple, le Instant On dont tu parlais, le réveil instantané, n'est véritablement disponible que, si j'ai bien compris, qu'une heure après avoir rabattu le clapet, parce qu'après il passe en mode de veille plus prolongée, donc il va se réveiller très vite, mais c'est pas instantané. Heure après.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'est un détail, mais je sais que certains vont commencer déjà à nous écrire, à nous envoyer leurs emails. Mais non, pas du tout, l'Instant On, c'est pas machin. Mais c'est vrai que ça aussi, ça compte, quoi. Un mois d'autonomie, c'est assez important.
Un peu comme l'iPad, quoi. C'est vrai que c'est super sympa de pouvoir laisser l'iPad traîner pendant 2-3 jours et puis finalement de le récupérer sans se dire putain, j'ai plus de batterie, donc il faut que je le branche avant de pouvoir le réutiliser. Donc ça, c'est assez sympa qu'ils aient mis ça dans le MacBook Air. Ils ont également parlé de Lion. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce nouveau système d'exploitation dont ils ont parlé. Quelque chose qui t'a frappé?
Oui, bah évidemment. Alors, plusieurs choses. D'une part, un truc important qui ne fait pas partie de Lion, c'est FaceTime, donc le fameux système de visioconférence qui est disponible sur l'iPhone 4, qui va être disponible aussi directement comme un logiciel indépendant, en fait, qui n'est pas du tout lié au logiciel de chat existant, en tout cas pour le moment, sur macOS. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir passer des coups de fil vidéo et même des coups de fil audio, puisque c'est possible aussi, d'un iPhone ou d'un iPod Touch en Wi-Fi à des Mac. Et à mon sens, c'est le début, donc la deuxième phase de cette stratégie qui pourrait à terme mettre complètement de côté l'aspect téléphone des opérateurs téléphoniques. Bon, on voit un petit peu plus loin, mais c'est vraiment un gros, gros truc, et c'est la deuxième phase qu'on attendait et qui arrive sans surprise. Mais pour revenir à Lion, donc au prochain système d'exploitation de macOS qui sera disponible à l'été 2011, il y a eu quelques annonces intéressantes, et notamment le fait que ils se sont inspirés là aussi de leur philosophie qu'ils avaient sur l'iOS, donc l'iPhone et l'iPad, pour apporter des choses à leur ligne d'ordinateur classique. Première chose qu'ils ont dit, qui est importante, c'est que l'interface tactile sur un écran qui est vertical sur un bureau, ça ne marche pas. Ils ont fait beaucoup de tests d'après eux, et quand on doit toucher l'écran, au bout d'un quart d'heure, on a le bras fatigué, on en a marre, ça marche pas. Et c'est intéressant parce que tout le monde se disait, ils vont amener à un moment le tactile au Mac ou à l'ordinateur de bureau, et Windows et d'autres systèmes vous proposent déjà une interface tactile. On peut aller voir à la Fnac des ordinateurs, ce que je sais moi, HP ou d'autres types, avec un écran tactile. Et ben eux, ils disent, c'est pas viable sur le long terme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a le trackpad qui est présent sur tous les portables, et vous connaissez ce fameux Magic Trackpad qui est un accessoire séparé qu'ils vendent pour les ordinateurs de bureau aussi, et c'est par cette interface qu'on fait du tactile. À partir de là, ils ont aussi eu une autre inspiration pour leur système, leur macOS, qui est le mode de travail en plein écran. Alors, c'est presque ridicule de se dire le plein écran est une nouveauté, parce que, évidemment, le plein écran existe depuis longtemps, mais en même temps, quand on regarde nos bureaux, on a tous plein de petites fenêtres à droite et à gauche, et on n'est pas toujours concentré sur une tâche. Alors évidemment, quand on travaille sur Word ou sur les navigateurs Internet, on a Skype d'un côté, Twitter de l'autre. Dans ces cas-là, on n'est pas concentré sur une tâche. Mais dans d'autres cas, ils ont notamment passé assez longtemps sur la nouvelle version d'iPhoto et de iMovie. Quand on est en plein écran, on est peut-être un petit peu plus concentré. En tout cas, ça simplifie un petit peu les choses. Et donc, ils ont intégré cette philosophie à la prochaine version, et ils ont fait en fait en sorte que certaines applications pourront arriver en plein écran, et avec des mouvements sur le trackpad, du multi-touch, on va passer d'une application à l'autre, et le bureau qu'on connaît aujourd'hui, le Finder ou le Explorer sous Windows, ne seront qu'une de ces différentes fenêtres. Donc on pourra passer d'une fenêtre à l'autre comme ça facilement. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication.
Oui,
mais...
c'est clairement
d'accord.
Ça.
Donc on passera en passant avec trois doigts sur la gauche et sur la droite, d'un écran à l'autre, et chacun de ces écrans pourra être soit le bureau, soit une de ces grandes applications. Ça, je pense qu'il faudra voir à l'usage ce que ça donne. Et puis l'autre énorme nouveauté qui, à mon avis, a une importance monumentale, et les deux ensemble font qu'il y a une véritable évolution, c'est pas une révolution, mais une évolution dans l'interface et dans l'utilisation des ordinateurs classiques, c'est qu'ils ont annoncé un truc qu'on attendait tous, ou en tout cas que certains d'entre nous attendaient, c'est l'App Store pour macOS. Alors la manière, je vais te laisser répondre à ces deux points, hein, Yann, dans deux secondes, mais je finis l'explication. La manière dont ça fonctionne, c'est que, exactement comme sur l'iPhone ou sur l'iPad, vous allez avoir un magasin d'app sur votre Mac, et vous pourrez aller faire votre shopping sur ce magasin d'app, mais quand vous achetez une application, c'est facturé sur votre compte iTunes, donc le compte que vous utilisez pour faire tous vos achats d'app. L'installation se fait automatiquement sur votre ordinateur, exactement comme sur l'iPad ou l'iPhone. L'installation se fait automatiquement, les mises à jour se font automatiquement, et l'application que vous achetez a la licence pour votre compte, donc pour tous les ordinateurs que vous possédez. Donc si vous avez un ordinateur de bureau et un portable, et un ordinateur chez vous, enfin un au bureau, à la maison et un portable, eh ben, l'application que vous achetez a la licence pour tous vos ordinateurs. Ça pose des questions pour la question si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, comment est-ce que ça va fonctionner ? On n'a pas encore la réponse, mais on verra. Cet App Store pour le Mac sera disponible dans les 30 jours, dans les 90 jours, donc bien en avance du nouveau macOS. Et dernière chose, deux dernières choses qui sont sujets à controverse. La première, pas tellement. La division des revenus se fait comme pour les apps sur iPhone ou iPad, c'est-à-dire 30% pour Apple, 70% pour le développeur. Certains disent, les gens sont un peu partagés, ils disent, alors est-ce que j'ai besoin, je veux donner 30% à Apple, alors qu'aujourd'hui, si je fais mon site web et que je le vends tout seul, bah, je garde tous les revenus. Évidemment, ça a du pour et du contre, parce que si Apple, enfin c'est tellement facile à accéder sur l'App Store que évidemment ça risque d'augmenter les volumes, donc ça peut avoir un intérêt, mais d'un autre côté vous perdez 30%. Ça sera à chaque développeur de faire son choix. Et d'autre part, Apple a annoncé que pour être présent dans l'App Store, il y avait là aussi des règles assez strictes. D'une part, ils devaient approuver les applications qui étaient sur l'App Store, et d'autre part, ils ne pouvaient pas utiliser ni Flash, ni Java, qui sont des technologies évidemment très répandues, et dont beaucoup de développeurs se servent, mais qui sont en fait, imaginons que la Flash ne soit pas à jour sur votre ordinateur, à ce moment, l'app qui serait sur l'App Store ne pourrait pas vraiment fonctionner, donc il y a une vague raison technologique pour laquelle ils interdisent ça. Bon, j'ai fait un gros résumé. Je laisse Yann donner son avis sur la chose avant de donner le mien.
Concernant le premier pilier, concernant les applications en plein écran, voilà quoi, c'est clairement la même philosophie qu'on avait sur iPad. Vous lancez une application, elle s'affiche en plein écran. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Effectivement, il y a des designers qui des fois ont besoin d'avoir plus de place pour travailler. Et plus tu as de la place, mieux c'est. Donc moi, je suis pas contre. Je noterais juste que même pendant la présentation, le gars qui faisait donc la démonstration, on voyait qu'il galérait quand même pour pouvoir passer d'un mode à l'autre sur une surface aussi petite que la Magic Mouse là, pour faire les différents mouvements, puisque il devait en avoir 5 ou 6 différents à retenir pour pouvoir passer d'un écran à l'autre. Des fois il y avait des ratés, donc ce sera pas quand même quelque chose de naturel pour Madame Michu. Donc
ce qui est clair, c'est que la Magic Mouse franchement c'est pas génial pour ça, hein. C'est clair, a priori il vaudra mieux avoir le Magic Trackpad que la Magic Mouse pour faire ça.
Voilà. Et maintenant, concernant l'App Store, alors je sais même pas par où commencer. Alors bien évidemment, comme tu peux l'imaginer, dès que j'ai entendu cette histoire de limitation avec Flash et Java, je suis monté au créneau. Et finalement, en y réfléchissant, je sais pas en fait, parce que d'un côté, comme tu l'as si bien dit, si jamais quelqu'un décide de faire un jeu ou une application, tout de suite il va se dire qu'il veut toucher un maximum de clients potentiels. Donc pour ça, il va falloir qu'il utilise un langage qui pourra être utilisé sur Windows, sur Mac, sur Linux et sur un maximum de plateformes. Et donc naturellement, tu as énormément de développeurs qui vont favoriser Flash ou en plus grande quantité aussi du Java et plus récemment du Silverlight. Mais c'est beaucoup moins répandu. Et ce que Apple est en train de dire, c'est que non, en fait, si vous voulez développer donc des applications, il va falloir passer par nos langages natifs. Et quelque part, alors ça pose vraiment un problème d'appartenance. C'est un truc qui revient assez souvent sur d'autres podcasts, d'autres analystes. Et beaucoup de gens pensent que Apple veut posséder ses développeurs. Si jamais je passe 8 mois, 1 an à développer un truc pour l'App Store de macOS, avant de pouvoir me dire je vais essayer de le faire sur Windows, comme je vais devoir tout refaire, je vais dire finalement je vais le laisser là, tu vois. Et donc du coup ils détiennent donc ces développeurs, ils tiennent prisonniers finalement de leur plateforme. Et c'est ça qui fait un peu rager les développeurs qui avaient enfin trouvé une solution avec ces langages passe-partout pour pouvoir rendre leur logiciel disponible pour tout le monde. Mais le revers de la médaille, c'est qu'avec des langages comme ceux-là, effectivement, comme tu l'as dit, si jamais un programme nécessite Flash 5 et que sur votre macOS vous avez Flash 4, vous allez avoir des problèmes. Enfin, je vois très mal l'App Store dire vous pouvez pas télécharger cette application parce que vous n'avez pas le Flash qu'il faut. C'est pas du tout dans la philosophie Apple de remonter des informations comme ça. Ça perturbe l'utilisateur. Enfin, c'est pas du tout dans leur philosophie. Donc en même temps, je comprends que pour le bien-être de l'utilisateur et pour ne pas le perdre avec des dépendances tierces, qu'il fasse ça. Donc du coup, je suis assez perplexe avec ce truc-là. Je sais pas trop quoi en penser.
Disons que contrairement à ce qui se passe sur l'iPhone ou l'iPad, c'est pas le seul moyen d'installer des applications. Donc les moyens traditionnels d'aller sur un site web ou d'avoir un CD ou de télécharger une application sont toujours possibles. Donc je pense que les gens sont moins furieux parce que cette autre alternative existe. Donc ça compense un petit peu les restrictions qu'impose Apple. Maintenant, je peux comprendre aussi, disons que clairement, il y a une volonté chez Apple de ne pas être comme les autres. C'est-à-dire que si tous les mêmes programmes sont disponibles, si tous les mêmes apps sur l'iPhone, si il y a toutes les mêmes apps que sur l'Android Market, c'est difficile d'être un téléphone différent, tu vois. Alors que là, t'es un petit peu obligé de penser ton truc directement pour l'iPhone. En l'occurrence, si tu veux être sur l'App Store de macOS, tu seras obligé de penser ton truc un petit peu pour le Mac. Je pense que c'est une stratégie qui a ses points forts et ça se défend, quoi. Ça se défend.
Ouais, mais... Enfin, je te laisse terminer.
À vrai dire, moi, je pense que c'est quelque chose de très important et ça, couplé à c'est juste une énonciation de principe, en fait, l'histoire du plein écran, parce que c'était déjà possible avant et ça n'a rien d'exceptionnel. Je pense que ça peut faire en sorte que la plateforme devienne plus accessible, plus facile à utiliser encore qu'elle ne l'est aujourd'hui pour les néophytes. Et à mon avis, c'est une stratégie intéressante à surveiller. Il y a quelque chose là-dessous. C'est quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, pour les histoires d'App Store, moi j'étais furieux que Microsoft ne l'ait pas fait avant. On a vu des leaks et des rumeurs selon lesquelles ça serait prévu pour Windows 8 qui devrait sortir dans 2 ans à peu près, qui aurait un App Store. Mais enfin, l'App Store sur l'iPhone, il existe depuis 3 ans. Pourquoi est-ce que personne ne l'a fait avant, quoi? Sur le desktop, c'est l'évolution naturelle.
Ça existe. Enfin, Microsoft a une version... Ça ressemble plus à Steam, en fait, ce que Microsoft a. Je crois qu'ils appellent ça le marketplace ou quelque chose comme ça, où tu peux effectivement, c'était un compte Windows Live, télécharger donc ce store sur ton Windows et donc télécharger des jeux exactement comme Steam.
Oui,
donc,
mais enfin tu vois bien, personne ne sait de quoi il s'agit. Et puis c'est pas pour les applications classiques, les applications bureautiques, parce que Steam existe depuis longtemps, effectivement, c'est un App Store. Et puis il y a des, je me souviens plus, mais il y a un site qui vous propose un petit peu le même genre de choses pour établir une liste, je crois qu'on en avait parlé il y a quelques temps, établir une liste des programmes que vous utilisez le plus et pouvoir les réinstaller immédiatement et facilement à chaque nouvelle installation. Mais enfin, c'est pas... Enfin bref, bon. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Et on verra, hein, d'ici... À mon avis, ça va être super... super. Pour... Le marché du Mac est beaucoup plus réduit que celui de l'iPhone, donc ça va être moins... il va y avoir moins de volume, mais ça va être un atout, à mon avis, intéressant. Mais
j'ai juste une dernière question, juste pour... Ouais. Ce sera mon dernier point là-dessus. Mais si jamais je rentre dans mon mode de troll Yann qui veut vraiment voir le mal partout, est-ce que tu imagines pas, dans quelques années, Apple qui dit, ben voilà... À partir de maintenant, dans l'Ion ou la version plus 2 de l'Ion, dès que vous voulez une application, vous passez par notre store.
Moi, j'irai même plus loin. Je pense que mon premier tweet quand j'ai vu cette histoire, c'était d'ici pas si longtemps que ça, les iMac ou les MacBook Pro ou les machines simples, entre guillemets, seront vendues avec par défaut l'App Store activé et aucun autre moyen d'installer les applications par défaut, hein, et les applications en mode plein écran, etc. À mon avis, on va dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'il sera à jamais impossible d'installer des applications d'une autre manière, mais je pense que l'activation de l'installation des autres applications sera cachée quelque part dans les paramètres et qu'il faudra aller fouiller là-dedans et qu'on aura un avertissement, attention, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez activer l'installation des applications?
Mais c'est ce qu'on a toujours voulu avoir sur l'iPhone et on l'a jamais eu, cette possibilité d'installer des applications qui n'ont pas été validées par Apple. Donc je les vois mal faire un truc comme ça.
Bah, disons que c'est pas le même environnement, je pense pas qu'ils vont... Pour répondre à ta question simplement, non, je pense pas qu'ils interdiront l'installation classique.
Ok, on verra.
Je vois que tu manipules le document Google et que tu agrandis les colonnes étranges.
Ben moi, je suis désolé.
Il n'y a pas de problème, je vais faire un CTRL-Z. Non, ça ne marche pas, c'est toi qui dois faire un CTRL-Z. Super, ça a marché. Bon, on raconte notre vie aux auditeurs. On va passer à la news suivante pour dire que les actions Apple ont atteint les $300, ce qui a fait d'Apple la deuxième plus grosse société au monde derrière ExxonMobil. Ce qui est quand même pas rien. Mais bon, les chiffres, on a l'habitude de vous les donner. Facebook, d'ailleurs, a fait 22% de mieux que l'année précédente. Quelque chose comme 7,2 milliards de profits au troisième trimestre. Avec beaucoup de bénéfices sur le marché des mobiles, qui a beaucoup grossi. Et entre parenthèses, il y a eu des histoires de taxes un petit peu bizarres avec des Dutch Sandwich et des Double Irish machin pour que Google a fait passer de l'argent par l'Europe pour éviter de payer trop de taxes aux États-Unis. C'était une histoire assez marrante, tout ça légalement bien sûr, mais enfin ça fait un peu bizarre. Mais bon, non, pour en revenir à Apple, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que il y a un an et demi à peine, au milieu de la récession, il y a un an et demi, l'action Apple était à $80. Elle est aujourd'hui à 300. Donc voilà, un petit peu de, un petit quelque chose pour vous donner de quoi réfléchir pendant vos longues nuits de pauvreté. Si vous aviez acheté des actions Apple au lieu d'acheter des MacBook Apple.
C'est Jérôme qui doit être content. Hein.
Mais, oui, c'est clair.
Mais enfin, je sais pas. Enfin, je pense qu'il faut quand même prendre... Faut prendre ces chiffres avec des grosses pincettes quand même, parce que une majorité de cette augmentation, finalement, c'est les ventes massives d'iPhone et d'iPad. Et ce sont quand même des produits qui sont vachement, enfin, j'ai l'impression hein, que ce sont des produits qui sont quand même vachement volatiles, beaucoup plus volatiles qu'un système d'exploitation de Microsoft ou une base de données Oracle. Et donc, du coup, j'ai l'impression que voilà, si jamais quelqu'un d'autre sort un téléphone qui est bien mieux que l'iPhone ou bien mieux que l'iPad ou n'importe quoi, ben ça peut s'effondrer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, alors que on peut avoir une base de données plus performante qu'Oracle qui sort. C'est pas pour autant que tout le monde va faire le passage et que du coup Oracle va perdre des millions de dollars. Donc du coup j'ai l'impression que ce chiffre là, il peut basculer quand même très rapidement vers le haut, vers le bas, quoi. Donc je pense avec des pincettes.
Je n'ajoute pas de commentaires. Non, mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Hein. Je pense que tu noircis un peu le tableau, mais c'est sûr que c'est pas une valeur aussi stable et aussi sûre que certaines autres qu'on a pu voir se faire dépasser il y a pas longtemps. Autre nouvelle dans le monde des e-books. Enfin, des e-books, c'est le Color Nook. Alors, le Nook, c'est un lecteur qu'on ne connaît pas tellement en France. C'est le lecteur numérique de Barnes & Noble, qui vient faire concurrence au Kindle. C'est-à-dire qu'ils avaient un système un petit peu hybride, un petit peu bâtard, avec de l'encre électronique sur le dessus, et puis un petit bandeau, qui était un écran tactile couleur classique, LCD, sur le...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Bas, et qui permettait de manipuler en fait ce qui s'affichait au-dessus. Et ben là, celui-là est toujours en vente à un prix de $149, je crois. Là, ils ont sorti le Nook Couleur, qui est un nouveau livre électronique qui vient avec en fait un vrai focus sur la publication, sur la presse. Donc il y a énormément de magazines disponibles, énormément de journaux, de livres, etc., de BD, tout ça. Et mais par contre, c'est plus de l'encre électronique, c'est un écran normal, un écran LCD, comme celui qu'on voit dans les autres tablettes classiques. Il est uniquement en Wi-Fi et il coûte $250. Ce qui veut dire qu'il est à mi-chemin entre un vrai livre électronique qui a de l'encre électronique et une tablette comme l'iPad. Et du coup, moi je ne sais pas très bien ce qu'ils cherchent à faire là-dedans, parce que l'autonomie, qui est l'avantage immense des livres électroniques avec de la vraie encre électronique, va chuter, donc va être certainement, ils n'ont pas donné l'autonomie,
si,
mais
c'est,
va être certainement...
c'est 8 heures, c'est 8 heures d'autonomie. 8 heures.
Donc voilà, coup, on est plus proche de quelque chose comme un iPad, même un petit peu en dessous. Et puis, l'image va être plus jolie, effectivement, mais ce n'est pas une tablette. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est un livre électronique qui fait plus de choses. Mais évidemment, les cyniques vont dire, est-ce que ce n'est pas plutôt une tablette qui fait moins de choses ? Donc c'est vrai que le prix est moins élevé. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais peut-être qu'ils veulent faire un coup à Noël pour se dire, bon, c'est beaucoup moins cher qu'un iPad, ça va faire un beau cadeau pour mamie qui lit ses trucs sur ce petit écran. Peut-être, je sais pas, je suis pas convaincu en tout cas.
Non, je suis pas convaincu non plus. En plus, j'ai vu une vidéo du truc tourner, c'est super cheap en fait, c'est un peu le bordel. Les livres que tu achètes sont un peu dispatchés n'importe où, tu peux les draguer, les déposer comme sur un bureau, mais c'est pas aussi organisé que le bookstore que tu retrouves par exemple sur le Mac. Mais c'est même pas ça le plus gros problème finalement, c'est que on sait pas effectivement, comme tu l'as dit, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un e-book ou est-ce que c'est une tablette ? Apparemment, c'est un produit entre les deux, mais il a le mauvais côté des deux, finalement. Il a l'autonomie pourrie d'une tablette LCD. Comment dirais-je ? Et il n'a pas le... Je sais plus
les
ce que
avantages
je voulais dire.
De l'e-book, quoi.
De l'e-book, ouais, tout à fait. Et donc du coup, moi,
parce que nous, ce qu'on se disait, c'est que avec la sortie de l'iPad et des tablettes en général, hein, soyons pas uniquement Apple, avec l'arrivée des tablettes, l'avantage de ces livres électroniques serait que ils vont arriver en dessous des 100€ ou des $100, et que donc ça va être un achat super presque impulsif, tu vois, tu te l'achètes, même si t'as déjà un iPad ou si tu veux un iPad ou peu importe, c'est pas le même marché, tu prends ça pour lire, et ça, c'est vraiment un produit de consommation, quoi. Ouais. Et là, ils vont un peu dans l'autre sens, donc...
Je sais pas, on verra ce que ça donne.
Ouais. Autre nouvelle, Ray Ozzie quitte Microsoft. Et ça, on s'y attendait pas. Pour ceux qui ne le savent pas, Ray Ozzie, c'était le Chief Software Architect de Microsoft. C'est un poste un petit peu bâtard, il reprenait cet aspect du poste de Bill Gates quand il est parti. En gros, c'était celui qui donnait la direction à Microsoft, qui disait la manière dont ils allaient faire les choses. Et il quitte Microsoft en donnant en bon terme, visiblement. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il ne s'est pas fait renvoyer. Mais il quitte Microsoft alors que c'était vraiment lui qui a donné la direction qui, à mon sens, leur a beaucoup réussi pour Office 2007, qui a vu un vrai redesign d'Office, que moi, personnellement, je trouve très bon, avec ce ribbon en haut. Il y a certaines personnes qui le détestent, mais moi, je le trouve très bien. Et surtout, c'est lui qui a donné la direction à Windows 7 en se disant, on va faire quelque chose de simple, d'efficace, qui marche. On va affiner ce qu'on a fait auparavant. On va enlever tout l'excès et tout le surplus de trucs qui nous gênaient. Et on va sortir Windows 7 dans les temps, efficace, qui marche, etc. Et ce qu'il dit dans un article de son blog public, c'est que on entre dans l'ère post-PC. Donc évidemment, je pense qu'il regarde du côté des iPads, des iPhones, de toutes ces machines qui sont aujourd'hui des ordinateurs, mais il dit nos activités quotidiennes dans le matériel et le logiciel ont beaucoup changé et on a commencé à changer les associations qu'on fait avec des activités d'ordinateur. C'est-à-dire que des choses comme des CD d'installation, des fichiers et des dossiers, des programmes, etc., etc., ça fait plus vraiment partie... Enfin, ça commence à transitionner vers quelque chose qui fait partie du passé. Et... évidemment, nous, on en parle régulièrement dans le rendez-vous tech et on le sait bien, mais le voir formalisé de cette manière, ça m'a fait ouvrir les yeux sur à quel point le fait d'installer un programme, même, c'est quelque chose que je fais rarement. Je ne parle même pas d'un CD, mais d'installer un programme, tout est soit sur le web, soit une app que j'installe sur mon iPad en 2 secondes, c'est vrai, même pas vraiment la procédure d'installation, enfin... ça se fait vraiment beaucoup moins qu'il y a ne serait-ce que 3 ans. Et le fait que Rayozi, qui a cette vision très claire du futur et à mon avis assez progressiste et assez intéressante, quitte Microsoft, ça, c'est pas que ça m'inquiète, parce qu'ils sont pas idiots chez Microsoft non plus, ils doivent s'en rendre compte, mais je me dis pourquoi est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'ils partagent pas leur vision, est-ce qu'ils partagent pas sa vision chez Microsoft ? Est-ce qu'il arrive pas à implémenter les choses parce que Microsoft est trop lourd ou... Enfin je sais pas, moi ça me rassure pas quoi.
Moi, le truc que je trouve le plus inquiétant, c'est qu'il ne le remplace pas. C'est une position qui va rester non occupée, enfin...
Qui va disparaître,
Disparaître. Et en fait, il avait une vision assez intéressante par rapport au cloud et comment on peut intégrer donc, cette vision à l'intérieur des produits Microsoft. Mais en même temps, ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que j'ai récemment lu une interview de Ballmer qui disait que Windows 8 sera le pari le plus risqué que Microsoft n'a jamais pris depuis qu'il bosse sur un système d'exploitation. Donc ils ont encore en interne, donc c'est j'ai envie de dire cette petite philosophie, on va tenter un gros coup, on va voir si ça marche. Donc j'ose espérer qu'ils ne restent pas sur leurs acquis et qu'ils vont encore tenter des choses innovantes. Et d'après cette déclaration de Steve Ballmer, ils vont quand même continuer à essayer de pousser l'innovation. Alors peut-être pas dans le sens le même sens que l'envisageait Ozzy, mais voilà quoi. J'ai encore bon espoir de voir des choses assez innovantes.
Oui, bah c'est sûr que ces derniers temps, Microsoft est clairement en train de redresser la barre. On le voit avec Bing, par exemple, qui gagne des parts de marché, qui fait des choses innovantes et intéressantes. Bon, Windows 7, qui est clairement un système d'exploitation très efficace. Windows Phone 7, qui tout le monde n'aimera pas forcément, mais en tout cas, ils ont pris des décisions courageuses et intéressantes. Bref, il se passe des choses, donc bon, peut-être que ça continuera. En tout cas, on l'espère. On passe d'un mastodonte à un autre pour parler de Google et d'Eric Schmidt qui a encore fait une boulette énorme dans une interview. Je pense qu'il voulait faire une blague, mais il a dit à propos de Google Street View et de la controverse qu'il y a avec la vie privée, l'Allemagne, comme vous le savez peut-être, a demandé l'option d'enlever sa maison de Google Street View, et ils ont activé cette option, et évidemment si, en fonction de à qui on demande, on va avoir une analyse différente. Google dit il y a très peu de gens qui l'ont fait en Allemagne, seulement 2%, alors que les autorités allemandes disent 2, X millions ont décidé de le faire, ce qui paraît énorme. Moi, même 2%, ça me paraît assez monumental. Il faut quand même aller sur Google Street View et remplir un formulaire et demander à ce que la maison soit floutée sur les images. Enfin bref. C'était tout un foutoir. Et Schmidt, dans une interview, a dit « Oui, bah, de toute façon, si vous voulez pas que votre maison soit sur Google Street View, vous avez qu'à déménager. » Alors, évidemment, c'est une bêtise sans nom et c'est une blague. Enfin, je veux dire, c'est trop gros, mais il avait aussi dit il y a quelques temps si vous...
Ouais. C'est qu'en ce moment il est très rigolo, en fait il fait beaucoup de blagues.
Ouais,
donc, du coup, ça passe une fois, mais voilà, quoi, ça commence à devenir lourd. Mais je te laisse raconter l'anecdote.
Ouais, alors ce qu'il avait dit notamment il y a quelques mois, vous vous en souvenez, si vous ne voulez pas, enfin bientôt les gens devront changer de nom à l'arrivée à l'âge adulte pour ne pas qu'on puisse voir tout ce qu'ils ont fait comme bêtises sur Internet, parce que tout est enregistré. Il a dit aussi, si vous voulez pas qu'on sache ce que vous faites sur Internet, enfin si vous voulez, s'il y a quelque chose que vous voulez cacher, c'est sans doute que vous ne devriez pas le faire à l'origine. Enfin, une série de bêtises en nom. Je crois que là, c'est la blague de trop. Il est revenu s'excuser, dire qu'il pensait pas du tout ce qu'il disait, que c'était une blague. Mais je pense que là, les relations presse de chez Google ont dû aller taper à sa porte et lui dire « Bon, là, quand même, tu déconnes. Faut se calmer parce que ça commence à bien faire. C'est la quatrième fois en un an. Ça suffit, t'es en train de passer pour un imbécile. » Et effectivement, cette histoire a fait vraiment... Le truc, c'est qu'il est pas drôle, le gars, quoi. Il est juste bizarre. Et c'est un mec super intelligent, il a énormément de qualités, etc. Mais avec toute cette série de blagues, t'as l'impression d'un type un petit peu trop fier de lui, qui a l'impression d'être marrant, mais à chaque fois qu'il sort une blague, ça tombe à plat et on le regarde bizarrement en disant mais il est sérieux, qu'est-ce qu'il veut dire, je comprends pas là.
Ah, enfin, tout à fait. C'est bizarre. Et puis si jamais tu déménages, bah, tu te feras shooter aussi là où tu t'as déménagé. Donc,
Bah oui, évidemment, enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. En autre nouvelle, le Wi-Fi va bientôt changer de... Enfin, changer. Le Wi-Fi va avoir une utilité supplémentaire avec le Wi-Fi direct. Le Wi-Fi direct, c'est une nouvelle utilisation du Wi-Fi qui vous permet de connecter directement deux appareils entre eux, un petit peu comme ce qu'on fait avec le Bluetooth, en fait. Et ça va être implémenté assez vite. Sur certaines machines, ça pourrait être implémenté par une simple mise à jour logicielle. Et donc, vous pourrez connecter un appareil à un autre en Wi-Fi très facilement sans avoir à vous connecter au même réseau. Il y avait déjà des moyens de le faire de manière un petit peu bidouillée. Mais là, ça va être fait de manière simple et rapide, donc c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui risque un petit peu de transformer notre utilisation des appareils mobiles. Je pense évidemment aux iPhones et aux iPads. Imaginez par exemple, sans avoir à vous connecter difficilement à un réseau, vous pouvez connecter directement votre machine à une imprimante Wi-Fi par exemple, ou des haut-parleurs Wi-Fi, ou Dieu sait quoi encore, à la machine de votre ami pour échanger des données. Ça va être plutôt... En fait, c'est à se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, quoi. Mais bon, Wi-Fi direct, attendez-le, ça arrive. Une autre chose qui risque d'arriver aussi et dont on parle depuis un moment, c'est le PSP Phone, dont on a vu les premières images sur le site Engadget, qui est un site de gadgets bien connu. Et visiblement, il existe, c'est un téléphone avec... En fait, c'est une sorte de PSP Go qui fait téléphone.
Ouais, t'en penses quoi, toi ?
Tu seras... Dis-moi, j'étais en train de te demander en premier.
D'accord. C'est une PSP. c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça le plus gros problème, c'est que c'est une PSP. Et donc la philosophie, enfin les types de jeux qui arrivent sur PSP ne m'intéressent pas. Et je pense que c'est le plus gros problème. Je m'amuse beaucoup plus sur une Nintendo DS parce que ce sont des jeux qui sont étudiés pour un périphérique portable. Alors que sur PSP, c'est pas du tout le même état d'esprit. Mais en ce qui concerne le périphérique en lui-même, moi je trouve ça assez sympa en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il a, il se présente un petit peu comme ces téléphones qui ont un clavier, donc un clavier coulissant. Donc on fait glisser le clavier, et il apparaît donc juste en dessous de l'écran. Mais à la place d'avoir donc les touches d'un clavier, ben, vous avez une croix multidirectionnelle avec les quatre boutons traditionnels d'une console portable. Et c'est assez discret puisque finalement quand vous rétractez le truc, ça ressemble exactement à un téléphone. Et en position donc rétractée, on n'a pas du tout l'impression d'avoir une N-Gage, c'est comme ça que ça s'appelait le truc de Nokia là.
N-Gage, oui. Non, N-Gage. Là, c'est un écran parfait, quoi.
Ouais, voilà. Donc, du coup, ça passe incognito. Donc, c'est sympa, cette approche de voilà quoi. J'ai pas envie de me balader avec un truc avec une console qui fait accessoirement téléphone. Et ça a été habilement fait, et donc on a vraiment l'impression que c'est un téléphone qui peut être également une très bonne console de jeu. Après, voilà quoi. Moi, j'ai plus un problème avec la bibliothèque de jeux qui sont disponibles sur la PSP.
Oui, bon, ça à la limite, effectivement, c'est un autre. C'est un autre la sujet. Machine en elle-même peut être intéressante, oui, c'est
ouais.
sûr.
Ah, ouais.
Ok. Bon, moi, la question que je me pose, c'est plutôt au niveau de est-ce que je veux avoir. Enfin. Non, en fait, si c'est un téléphone, peut-être que ça peut être que positif, quoi. Parce que là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je veux une PSP et un iPhone ou un Android ou un smartphone dans la poche ? Là, si ça réunit les deux, pourquoi pas ?
Ouais. On verra bien pour le moment. En plus, c'est encore un modèle
un
alpha.
Prototype,
hein,
oui, bien
c'est
sûr.
C'est un prototype, donc ça...
C'est un truc qui a été sorti d'on ne sait quelle usine qu'ils ont réussi à dégoter, donc... Ouais.
Mais oui, ça a déjà de la gueule, ça a déjà de la gueule, donc ça s'annonce ouais. bien. Après, bon, on verra ce que ça donne par la suite. Mais le hardware est sympa, en tout cas.
Ok, bah écoute, je vais, avant de passer à nos deux ou trois dernières histoires, je vais donner à nos auditeurs un petit message de notre sponsor Numéricable pour vous dire que c'est la fin, ça y est, c'est presque terminé. Le tirage au sort organisé par Numéricable pour le mois d'octobre est en train de se terminer. Donc comme vous le savez, du 1er au 31 octobre, Numéricable organise un grand jeu en partenariat avec nous, nowatch.net, c'est nous. C'est-à-dire que vous avez une Xbox 360, 5 jeux Final Fantasy XIII, 5 coffrets Naruto Shippuden volume 8, offerts par Numericable et Game One. Et pour participer, c'est super simple, il vous suffit de tester votre éligibilité à la fibre. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur le portail nowatch.tv, vous cliquez sur la bannière Numericable, et là, vous avez les informations à rentrer pour participer au tirage au sort. À partir de là, vous avez un lien pour tester votre éligibilité, vous allez la tester, et quel que soit le résultat, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Donc vous rentrez juste les informations, il y a, je crois, votre adresse email et si oui ou non vous êtes éligible. Donc bon, ça va pas vous prendre la nuit. Et à partir de là, vous rentrez vos informations et vous serez informé de votre, enfin du résultat dans l'émission. Et vous serez aussi prévenu par email. Et donc, comme je le disais, ça se termine le 31 octobre. Donc si vous écoutez cette émission juste quand elle est sortie, vous avez encore la chance d'y participer, donc, mais c'est le dernier moment, donc allez-y sur nowatch.net, enfin sur nowatch.tv, et cliquez sur la bannière parce que c'est presque la fin. Et donc j'en profite pour vous dire que Numericable, en plus d'être des gens super top cool, sympas, ce sont quand même des acteurs majeurs de la fibre en France, c'est-à-dire que on a sur la carte de France une quantité de villes invraisemblables, que ce soit Paris, Marseille, enfin je vais pas toutes vous les faire, mais quand vous regardez la carte, il y a des petits drapeaux un petit peu partout pour vous montrer où Numericable est disponible. Je suis en train d'essayer de regarder quelques noms de villes, mais ça va faire le clic sur la souris et ça va énerver tout le monde. Donc, mais enfin vraiment, il y a des drapeaux verts partout en France, quoi. Donc, vous allez regarder la carte et il y en a un petit peu partout. Et vous êtes peut-être éligible à la fibre, ce qui veut dire connexion 100 mégas, machin super rapide, upload, download, tout le tintouin. Donc vous pensez peut-être que la fibre c'est pour les autres et c'est pas pour vous, et ben vous vous trompez peut-être, parce qu'il y en a vraiment partout et Numericable est présent dans énormément d'endroits. Donc allez regarder, franchement ça vaut le coup, ne serait-ce que pour voir si vous êtes éligible ou pas, quoi. Et en plus, pour participer au concours, donc c'est jusqu'au 31 octobre. Et on remercie très chaleureusement Numericable de leur sponsoring du Rendez-vous Tech et des autres podcasts nowatch.net. Merci à eux. Donc, on enchaîne avec la suite des infos. On va conclure avec une ou deux petites histoires supplémentaires. Il y a un truc qui t'a marqué particulièrement ?
Alors, pour
non, sinon je le fais, je le fais moi. Moi, il y a plein de trucs qui me marquent.
Il y a
en fait
WebOS 2.0 qui je crois a pointé le bout de son nez chez vous.
Ouais. Je sais pas s'il est déjà sorti, mais en tout cas, il a clairement été annoncé.
Ouais. Et donc, je sais pas si tu savais, mais moi, j'avais dès que je suis arrivé au Canada, le premier truc que je me suis pris, c'était un Palm. Et je dois dire que j'étais assez déçu finalement de du téléphone, puisque bon, voilà quoi, il était clairement en retrait d'un point de vue performance par rapport à l'iPhone. Et puis donc j'ai lu quelques reviews donc du WebOS 2. Alors, il est beaucoup plus véloce. Ils ont rajouté plus de Ils ont peaufiné beaucoup plus l'interface. C'est un peu la même philosophie que le passage du 3G au 3GS. Il y a aucune évolution majeure. C'est pas une révolution. C'est juste qu'ils ont pris le même téléphone et ils l'ont amélioré, ils l'ont rendu plus rapide, etc. Donc voilà. Moi, j'ai toujours un problème avec la technologie en elle-même. C'est un OS dont les applications sont basées sur l'HTML. Et donc du coup, c'est contrairement à une application native pour l'Android ou de l'iPhone, on sent que les applications rament un petit peu, c'est lourd, c'est pas super fluide, c'est pas super, les finitions des applications sont pas terribles. Et le plus gros problème finalement, et je sais toujours pas s'ils l'ont réglé avec ça, c'est que tout comme Android, c'est l'opérateur qui décide quand est-ce qu'il veut pousser une update. Ce qui fait que ben, je voyais des news avec des jeux qui étaient disponibles sur le marketplace de WebOS aux États-Unis, mais j'avais toujours pas accès au Canada. Et donc ça, je sais pas s'ils l'ont réglé avec cette version là, mais sinon le périphérique en tant que tel, si on met le marketplace à côté, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. C'est juste que voilà quoi, la mayonnaise n'a pas prise avec moi.
Mais en tout cas, c'est quelque chose de... Enfin, ça fait chaud au cœur parce que tout le monde disait WebOS, il y a des supers idées, c'est une interface sympa, c'est bien. Et puis, on pensait qu'il était mort quand Palm était en train de
d'agoniser.
D'agoniser, oui. Et puis, HP les a rachetés et ils ont ressuscité la plateforme. Donc, c'est plutôt enthousiasmant, quoi. Ça fait encore un concurrent de plus sur le marché. Et HP, en tout cas, HP est derrière. Donc, ils vont sortir plusieurs machines sous WebOS, en plus de leur fameuse HP Slate qui, finalement, va sortir sous Windows 7. No comment. Mais bon, donc voilà, ça risque de donner quelque chose de bien, quoi.
Moi j'attends surtout ce que va faire HP de WebOS sur autre chose qu'un téléphone. Ils ont dit qu'ils comptaient l'appliquer sur genre une imprimante. Les écrans LCD sur les imprimantes affichent des menus incompréhensibles. Et le fait d'avoir un système d'exploitation complet à l'intérieur de votre imprimante qui vous permet éventuellement, vous scannez un truc et de l'envoyer automatiquement par email à un de vos contacts Facebook, ça vous permet de faire des choses beaucoup plus évoluées, surtout avec le Wi-Fi Connect dont on parlait tout à l'heure. Donc du coup, voilà, moi j'ai envie de voir ce qu'ils font à ce niveau-là. Après, en tant que concurrent des autres téléphones, je les vois pas encore là, quoi.
Ouais. Ok, dernière chose dont on va parler, non, deux petites choses. D'abord, Facebook est encore partout, comme toujours, hein, ça ne nous surprend pas. Intégration Facebook et Skype, qui peut être intéressante, donc on va bientôt pouvoir appeler ses contacts, je ne sais pas si c'est déjà possiblement déjà le cas d'ailleurs, appeler ses contacts Skype depuis Facebook et vice-versa, donc la dernière version de Skype intègre les mises à jour Facebook, etc. Et autre chose, Bing intègre des résultats personnalisés en fonction des données Facebook, donc évidemment c'est optionnel, vous pouvez vous retirer de cette fonctionnalité, mais quand vous faites une recherche, en fait, les résultats de la recherche pourront être personnalisés en fonction de ce que vos amis ont aimé, de ce que vous avez aimé, etc. sur Facebook. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant et qui montre d'une part que Skype et Microsoft, donc Bing, regardent Facebook de manière très sérieuse et vont de l'avant avec Facebook, et ça montre aussi que Facebook a encore ses tentacules absolument partout, et ça ne surprendra personne.
Tu l'utilises toi, Bing ?
Pas du tout, jamais.
Non mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on traite des news comme ça, je me dis waouh, c'est génial, c'est carrément mieux que sur Google et tout. Mais dès que je vais sur une nouvelle bécane et que par défaut il fait la recherche sur Bing, je m'empresse de passer sur Google. Et je vais me dire ça doit être compliqué quand même pour Microsoft de réussir à percer. Ouais. Donc ils sont vraiment obligés d'innover avec des choses comme Facebook plus Bing. Mmh. Et donc mais c'est tant mieux, on aura un Bing de plus en plus performant.
Oui. Ah bah un jour peut-être qu'on finira par y arriver, hein. Moi je j'ai rien contre Bing, au contraire, ils font des trucs. À chaque fois qu'ils annoncent des trucs comme ça, je l'essaye un petit peu, puis je vois ce que ça donne. Et puis tu sais, il suffit de pas grand chose, un jour tu finis par dire bon allez, je mets Bing par défaut, et puis voilà, ça y est, hein, donc ça risque d'arriver. Et dernière chose, allez, on va conclure avec une dernière quelque chose d'assez une histoire très humaine et très belle sur Internet, enfin très belle, profonde on va dire. Vous avez peut-être entendu parler de ces adolescents homosexuels qui se sont malheureusement donné la mort ces derniers temps aux États-Unis parce qu'ils étaient bullied, je ne sais pas comment on dit même bully, se faire
le gars qui en prend plein la gueule à l'école, hein.
Voilà, exactement. Vous savez, enfin, on le voit souvent dans les films ou les séries américaines, c'est le mec qui se fait... Il y a les sportifs qui vont se moquer, se foutre de la gueule du mec qui est un peu plus faible, ou
de
l'homo, ou du nerd, ou du machin. Bon, ça, c'est quand quelqu'un se fait to bully someone, c'est ça. Et donc, les adolescents homosexuels subissent des discriminations de ce genre régulièrement. Et il y a eu une série de deux ou trois gamins qui se sont donnés la mort aux États-Unis, ce qui a provoqué une sorte de d'élan sur Internet de énormément de gens qui sont homosexuels et qui ont fait des vidéos qu'ils ont mis sur YouTube ou ailleurs pour dire « it gets better », ça veut dire « la situation s'améliore », pour faire passer un message aux jeunes homosexuels, pour leur expliquer que ça, c'est peut-être difficile aujourd'hui, mais bientôt vous serez adulte, vous serez plus à l'école, vous serez plus soumis à cette... cette dictature du statut social de l'autre, vous pourrez gérer votre vie vous-même, vous serez responsable de vous-même et vous pourrez décider de ce que vous allez faire et les choses s'amélioreront. Donc courage, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'être différent à une période de votre vie où l'uniformité est importante et il faut s'intégrer, mais les choses s'améliorent et il y a eu énormément de gens, que ce soit Dougie Hauser, Neil Patrick Harris, qu'on connaît dans How I Met Your Mother, ou enfin des personnalités qui ont vraiment voulu faire passer ce message. Il y a eu des officiels du gouvernement, enfin énormément de gens, des employés de Google par exemple, des employés homosexuels qui ont fait une vidéo pour dire la même chose, quoi. Moi, quand j'étais à l'école, c'était difficile, c'était compliqué, je me suis fait, on s'est foutu de ma gueule, etc. Mais regardez, maintenant je travaille chez Google, je suis accepté, tout se passe bien, bon, je peux être celui que je veux être, etc. Alors, je crois que en France, on a quand même un petit peu moins ce problème. J'avoue que je suis pas très très au courant de la manière dont ça se passe. Je me demande si... Je suis désolé, hein, ça va être un terrible cliché, mais je me demande si dans certaines banlieues, les choses ne sont pas plus difficiles qu'à Paris. Je dis ça parce que j'ai vu par exemple une interview lamentable du groupe Section d'Assaut qui affichait son homophobie... très ouvertement, enfin, c'était assez horrifiant. Mais bon, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a en tout cas moins le problème ici en France qu'ailleurs. Mais je sais pas si c'est véritablement aussi accepté que moi j'ai l'impression. Et je trouve que cette campagne, en tout cas, a quelque chose de très louable, évidemment, et en plus d'assez rafraîchissant, parce que sur Internet, on a plus l'habitude de voir des chats qui dansent et des gens qui se cassent la gueule en bagnole ou en moto que ce genre de truc utile, parce que on a vu notamment les gens qui sont responsables de téléphone, de lignes de téléphone, d'aide psychologique, ont vu la quantité d'appels augmenter, donc les gens osent peut-être plus assumer leur situation, ou en tout cas demander de l'aide s'ils sont dans une situation difficile. Bref, c'est quelque chose qui sert vraiment, qui est louable et dont je voulais parler, parce que c'est une initiative qui m'a plu, quoi.
Et comment on fait pour retrouver ces informations ?
Bon, écoute, je crois qu'aujourd'hui, si tu tapes, on va voir tout de suite, je vais faire « It gets better » sur Google. Et voilà, il y a énormément It Gets Better Project Channel sur Google, sur YouTube.
D'accord.
Okay. Il y a des tonnes de vidéos.
It Gets Better. Okay.
Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là, ou si même vous-même vous êtes dans ce cas-là, peut-être que ça vous donnera un petit coup de main d'aller voir tout ça. Et en tout cas, ça a déjà aidé du monde, donc je voulais en parler, faire un petit mot là-dessus.
Non, c'est une très belle initiative, effectivement, ça change du chat qui se casse la gueule.
Ce qui est vraiment très internetien là-dedans, c'est que les gens se sont mis à le faire par eux-mêmes, quoi. Il n'y a pas eu une personne qui allait voir tout le monde. Enfin, à l'origine, il y avait peut-être quelqu'un qui a demandé à deux ou trois personnes de mettre des vidéos, mais tout le monde s'est mis à le faire par eux-mêmes, ouais. Sans grand, tu vois, mouvement commercial ou quoi que ce soit. C'était...
Non, c'est effectivement une belle action.
Ouais. Eh ben écoute, on va conclure donc sur cette image plutôt positive d'Internet. On n'a pas donc de statosphère de Guillaume aujourd'hui parce qu'on en fait un mini-épisode qui fait quand même une heure. Je comptais sur une demi-heure, mais évidemment, c'était être un petit peu trop optimiste. On reviendra avec un épisode complet d'ici une dizaine de jours à peu près, un petit peu plus. Mais d'ici là... je suis sûr que tous nos auditeurs veulent suivre ce que tu fais dans la vie de tous les jours, Yann. Que doivent-ils faire ?
Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur Twitter et mon pseudo est Yann Allet, donc YA2NALET. Et c'est essentiellement là où vous verrez le plus souvent ce que je fais et ce que j'aime et ce que j'aime pas sur le net. Voilà.
Merci Yann. Et pour moi, c'est sur patrickbeja.com que vous retrouverez tous mes liens vers Twitter, Facebook et le reste. Et si vous voulez commenter l'émission et retrouver d'autres émissions de grande qualité, qu'elles soient en vidéo ou en audio, vous allez sur nowatch.net et vous suivez les liens vers le bonheur dans vos yeux et vos oreilles. On vous dit, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao à tous.
Ciao. J'allais dire salut. Je me suis retenu.
C'était limite, hein. J'ai entendu le...
Ah non.